26 minutes pour penser.
Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos.
Avec Fabrice Hadjadj
et Galdric Drapé.
Aujourd'hui, quatrième épisode de notre série sur la mort, avec cette question décisive, parce qu'elle oppose le paganisme et le christianisme. Immortalité ou résurrection ? Comme nous l'entendrons dans le texte de Porphyre que nous allons lire, Porphyre était un disciple de Plotin, lui-même un grand commentateur de Platon, la grande question de la philosophie a surtout été celle de l'immortalité de l'âme. La Bible révèle une toute autre perspective. Nous ne visons plus l'immortalité, mais la résurrection, c'est-à-dire, après la mort, le retour glorieux à notre corps. Mais comment le retour à notre corps peut-il être une libération ? Et pourquoi la résurrection serait-elle meilleure qu'une simple immortalité spirituelle qui nous arracherait aux limites du temps et de l'espace ? Pour essayer de penser cette question difficile, écoutons ce texte de Porphyre de Tyr, lu par Siphrène Michel.
La loi naturelle instaurée et établie par Dieu, qui dure à travers les âges, est par sa nature même immuable, et de ce fait ne peut être renversée par le Dieu qui l'a édictée. Elle ne peut non plus être détruite, comme si elle eût été un code de loi inventé par un simple mortel, dans le but de servir son propre intérêt. Il est absurde de penser que la résurrection peut suivre la destruction de la race humaine et que le Dieu relève d'un seul geste aussi bien un homme mort 3 ans avant la résurrection de Jésus que Priam et Nestor qui vécurent 1000 ans auparavant. La simple considération de cet enseignement idiot me rend tout étourdi. De nombreuses personnes ont péri en mer. Leurs corps ont été dévorés par des poissons charognards. Des chasseurs ont été grignotés par leurs proies, animaux sauvages et rapaces. Comment leur corps serait-il relevé ? Comment le corps du naufragé sera-t-il réassemblé, sachant qu'il aura été absorbé par plusieurs autres corps de différentes espèces ? Prenez encore l'exemple d'un corps qui aurait été consumé par le feu ou qui aurait été rongé par les vers. Comment ces corps pourraient-ils être restaurés dans leur essence originelle ?
Fabrice Hadjadj, quel est le contexte dans lequel écrit Porphyre ?
C'est un contexte merveilleux, on pourrait dire, pour la pensée. Parce que nous sommes à une époque, le 3e siècle, après Jésus-Christ, où la société, l'Empire romain connaît, on pourrait dire, une invasion chrétienne. Alors, pas une invasion comme celle des barbares, mais les gens se convertissent. Il y a de plus en plus de chrétiens, il y en a dans la noblesse, et il y en a aussi dans les écoles philosophiques. On est juste avant le moment où le christianisme, sous Constantin, va devenir religion impériale, et donc dans un moment d'effervescence intellectuelle extraordinaire et de querelle autour de la vérité de la philosophie. Parce que Porphyre est un disciple de Plotin, l'auteur des Énéades, une série de traités qui prétendent d'ailleurs ne faire que commenter Platon, mais qui offrent une pensée absolument originale, avec une dimension mystique, qui, d'une certaine façon, est prête à rivaliser avec le christianisme. Et donc, c'est l'état, on pourrait dire, le plus parfait du paganisme, et d'un paganisme qui a été déjà confronté au christianisme. Parce qu'il faut savoir que Platon a déjà été repris, relu, comme, on pourrait dire, un auteur pré-chrétien, et qui aide à penser la révélation, par Clément d'Alexandrie, par Saint Justin, mais aussi, bien sûr, avant cela, dans un contexte juif, par celui qui a été, on pourrait dire, le père des pères de l'Église, par Philon d'Alexandrie ou Philon le Juif. Et déjà, il y a un certain platonisme biblique qui s'installe. Or, d'autres disciples de Platon, qui eux restent païens, mais qui sont avant tout, qui se veulent avant tout, donc, platonicien et fidèle à la pensée du maître, parce qu'il n'adhère pas à tout on pourrait dire, dans le paganisme, eh bien, d'autres disciples de Platon vont revendiquer l'héritage en disant « mais vous passez complètement à côté, vous n'avez rien compris, Et cette histoire de résurrection, d'ailleurs, montre bien combien vous êtes loin de Platon et que c'est un enseignement idiot par rapport à la vraie parole du maître, celle qui considère en vérité l'ordre du cosmos et de la nature. C'est ça le fond hein, de ce texte. Alors, Porphyre va écrire un texte qui s'intitule « Contre les chrétiens ». Il y aura aussi un texte célèbre de Celse, contre les chrétiens, auquel va répondre Origène. Donc on est dans une période de polémique vraiment formidable. Et Porphyre est un homme, un brave type, si j'ose dire. Hein, c'est pas un type mauvais, enfin, je veux dire, c'est pas un païen pervers. Hein, c'est un homme extrêmement moral, profondément marqué d'abord par la morale pythagoricienne. Hein, il y a toujours un arrière-plan et des phrases de Pythagore dans ces textes. Et il y a notamment ce merveilleux texte, la lettre à Marcella, à sa femme. Hein, il a épousé une femme très tardivement. Parce que, pour la soutenir, elle et ses enfants, hein, il voulait être le sage sans femme, et finalement il va le faire, donc c'est un homme foncièrement bon, et qui insiste sur la vérité d'une vie spirituelle. Alors c'est ça qui est génial, c'est que le porphyrisme est un spiritualisme, et nous permet de voir par contraste en quoi le christianisme n'est pas un spiritualisme. Vous voyez, c'est ça le lieu de ces polémiques. En quoi c'est une spiritualité de l'incarnation et l'importance de la chair dans le christianisme. Religion, on pourrait dire, de l'esprit, mais de l'esprit créateur et sauveur de la chair. Donc, religion charnelle aussi.
Alors, reprenons le texte, enfin, les questions dans l'ordre du texte. Porphyre commence par prendre le point de vue de Dieu et dit que la résurrection n'est pas possible du point de vue de Dieu parce qu'elle supposerait que Dieu révoque sa propre loi. Qu'est-ce qu'il entend par là et que veut-il dire ?
Ça me fait penser à une remarque que fait Rivarol à propos des miracles. Et il dit « Ceux qui demandent à Dieu des miracles ne savent plus voir le miracle qu'est l'ordre de la nature ». Donc, on pourrait dire qu'il y a un ordre du cosmos qui est lui-même merveilleux, et demander à Dieu de suspendre cet ordre du cosmos pour faire des miracles, c'est être aveugle devant la merveille de cet ordre. Alors, l'ordre du cosmos, c'est que les êtres terrestres vivent et meurent. Et il est normal de mourir. Alors dans la pensée de Porphyre, on est dans une pensée où il peut y avoir des réincarnations, hein, c'est la pensée, une certaine version du pythagorisme et du platonisme. Donc on quitte ce monde, on y revient, et une fois qu'on est suffisamment purifié, c'est ce qu'on pourrait imaginer aussi dans le monde de l'hindouisme, eh bien on rejoint Dieu et on est dans le cortège, on reste dans le cortège des âmes purifiées. Donc on est dans une vision qui est une vision non seulement spirituelle, mais qui n'est pas une vision, qu'on pourrait dire, qui vient du gnosticisme. Il n'y a pas l'idée que le corps est un tombeau, hein, ou que le fait d'être dans la chair est une prison. Se libérer de la chair, c'est sans doute très bien, il vaut mieux être une âme, mais être dans la chair, c'est aussi la possibilité de vivre une aventure, et de vivre cette aventure de la purification. Donc, il y a une vision beaucoup plus positive, on pourrait dire, de la chair que la vision manichéenne dont on a parlé dans l'émission précédente à propos de Saint-Augustin. Alors, la question est la suivante. Dieu a créé l'ordre du monde. Et dans cet ordre du monde, les êtres meurent, les âmes se séparent du corps. Pourquoi est-ce qu'il va les faire ressusciter? C'est à l'encontre de tout ce qu'on voit et de l'ordre naturel du cosmos. Donc, si Dieu ressusciter les morts, eh bien, il y aurait une contradiction en Dieu. C'est cette thèse-là. Dieu ne peut pas avoir créé cet ordre et puis tout d'un coup suspendre cet ordre, le nier. Cette remarque est intéressante, mais oublie un aspect fondamental. Il le dit d'ailleurs, hein, il identifie d'une certaine façon les lois de la nature et Dieu hein, dans son texte. C'est que Dieu a créé le monde librement. Et il en est le souverain. Et le signe d'un souverain, c'est qu'il est au-dessus des lois. Il a créé des lois qui marchent dans la plupart des cas, mais il peut aussi suspendre ces lois, il peut suspendre leur cours ordinaire, si j'ose dire, non pas pour détruire ce qu'il y a dans la nature, mais pour en révéler une vérité plus profonde. Donc on pourrait dire, il est naturel pour un homme de mourir. Mais d'un autre côté, Dieu n'a pas créé la nature humaine pour qu'elle meure au départ. Et la mort est toujours un scandale. Vous voyez, donc comment comprendre que c'est à la fois naturel et que c'est un scandale? Ça, c'est notre expérience. Les gens vont dire c'est naturel, la mort c'est la vie. Oui, mais non, le deuil nous fait voir que c'est pas complètement la vie. Il y a quelque chose qui relève du scandale, voire même, c'était le cas du premier mort, hein, un fratricide, voire même du meurtre, voire même de l'assassinat. On ne devrait pas mourir. Donc, il faut tenir ces deux vérités. C'est naturel et en même temps, il y a un scandale. Donc, on voit bien que ce n'est pas si clair que ça, que dans l'expérience, c'est normal que l'on meure. Ou que ce mal est normal. Parce que si c'était un mal normal, ben c'est plus tellement un mal, quoi. Ça fait partie du bien de l'existence. Bon. Y a d'abord cette expérience que nous faisons, mais il y a aussi une erreur sur l'idée d'une création par un souverain qui est libre. Et quelle est la marque du souverain? C'est qu'il n'est pas lui-même, subordonné à ses lois. Et qu'il peut intervenir dans le cours de l'histoire. Et qu'il peut même, par une pédagogie, progressivement se révéler. Et qu'il peut même faire grâce. Alors vous voyez, là, on a une vision de Dieu qui est très différente. Un Dieu qui est beaucoup plus personnel, alors que le Dieu de Porphyre est plutôt impersonnel. Un Dieu qui est libre, qui a créé librement, alors que le cosmos de Porphyre émane, on pourrait dire, de Dieu, presque nécessairement, parce que le bien se diffuse de lui-même. Et puis, un Dieu qui fait grâce. La grâce, c'est le signe de la souveraineté. Parce que vous voyez, c'est quoi la grâce? On gracie un criminel. Le criminel est censé être condamné à mort. On doit le condamner à mort. Et voilà qu'on fait une requête au souverain et on dit, mais vous voyez, bon, c'est vrai, il mérite la mort, mais à considérer ceci ou cela, le bien qu'il a fait, la détresse de sa femme et de ses enfants, ou alors la manifestation de votre bonté de souverain, vous devriez le gracier. Voilà, et à ce moment-là, le souverain fait grâce. Et donc, on est dans une autre vision de Dieu, personnelle, libre et faisant grâce.
Prenons maintenant le point de vue de l'humain. Pourquoi est-ce qu'il serait, d'après Porphyre, préférable d'être libéré néanmoins de son corps plutôt que d'y retourner?
Alors, le corps, c'est la doctrine de Platon, mais il y a ce jeu de mots. Hein. Soma, le corps, qui peut être vu comme... Sema, le tombeau, qui peut être vu aussi comme l'autre sens du mot sema, avec une accentuation différente, qui veut dire le signe, on dit un sémaphore en grec, et puis Platon le dit dans le Cratyle, et le corps aussi comme sauveur. C'est très intéressant, la pensée platonicienne est très très riche, hein, c'est un lieu qui donne à penser, et le platonisme postérieur est souvent moins riche que la pensée de Platon. Platon ouvre beaucoup de directions. Alors, chez Plotin, donc le maître de Porphyre, il y a cette idée effectivement qu'il n'est pas mauvais d'être dans un corps, mais que le corps est une sorte de véhicule où les hommes apprennent à se transformer, à devenir bons, mais une fois qu'ils ont atteint cette bonté, ils n'ont plus à être dans le corps. Et donc, il y a quand même cette vision que l'homme, c'est d'abord son âme, mais que l'âme a besoin parfois, enfin, elle a besoin pour se purifier d'un instrument qui est le corps. Donc, c'est une vision purement instrumental du corps. Le corps est un instrument de l'âme, il ne fait donc pas partie de la personne. La personne, c'est l'âme, c'est l'esprit. Et de l'autre côté, il y a le corps qui est, vous voyez, comme pour me transporter d'un point à un autre, j'ai besoin de prendre un véhicule. Mais ma voiture, c'est pas moi. Et puis au moment où je sors de la voiture pour me rendre chez ma bien-aimée, vous voyez, je ne vais pas m'approcher de ma bien-aimée et l'embrasser avec la voiture. Non, il vaut mieux que je m'en débarrasse de la voiture et que j'en sorte. Donc, c'est bien ça la vision qui est derrière, l'idée d'un corps qui est véhiculaire, qui est un instrument pour se purifier. Mais après, il est bon de se libérer de ce corps. Et c'est pour ça que Plotin, dans un de ses textes, dira, mais... La mort et la libération du corps, c'est un éveil. Si on devait revenir au corps, on devrait revenir à ce moment qui est un moment intermédiaire, voire même à quelque chose qui est comme de l'ordre de la somnolence. Et il dit, ressusciter, c'est manquer l'éveil, et c'est comme se retourner dans son sommeil. C'est une image qui est très forte, qui est typiquement païenne, où la question, c'est l'immortalité de l'âme, et ultimement, l'âme qui se sépare du corps mortel, de ses pesanteurs, Alors avec cette idée aussi que, bah oui, parce que dans la il est dans la nature du corps, dans ce monde, dans ce cosmos, de souffrir. Donc vous voyez, l'idée c'est qu'il faudrait, pour revenir au corps, que ce ne soit pas simplement une transformation du corps, la résurrection, mais que tout le monde, tout l'univers soit renouvelé. Parce que si c'est revenir dans un corps de telle sorte qu'on va encore souffrir, ça n'a aucun sens. Donc, l'autre idée qui est fondamentale, mais que n'arrive pas à penser Porphyre, c'est l'idée que la résurrection du corps implique une transfiguration de tout le cosmos, des cieux nouveaux et une terre nouvelle.
Vous écoutez 26 minutes pour penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, immortalité ou résurrection? Alors Fabrice Hadjadj, Porphyre pose une question extrêmement pertinente, à savoir la question de notre chair ressuscitée. Est-ce que ce sera notre chair que nous allons récupérer? Mais en quel cas, si elle a été détruite, comment la récupérer? Et si ce n'est pas notre chair, en quoi est-ce encore nous?
Alors Porphyre est très sensible à en fait, une sorte de réalisme. D'abord, il faut rappeler une chose, c'est qu'effectivement, le christianisme n'est pas d'abord la religion de l'immortalité, c'est la religion de la résurrection. Et donc, ça veut dire que c'est une religion qui affirme la mortalité de l'homme. Elle affirme profondément cette mortalité. Pour faire un bon ressuscité, il faut d'abord être un bon mort. Donc, il n'y a pas du tout d'esquive face à la question de la mortalité. Et un bon mort, ben oui, éventuellement, c'est un naufragé, c'est quelqu'un qui a été dévoré par les poissons, c'est quelqu'un dont le corps a été brûlé, consumé. Et alors, la question de Porphyre dit, mais c'est contre les lois de la nature, le fait que, tout d'un coup, les différentes parties de ce corps soient reconstituées, on va aller chercher dans les poissons. Et alors, il pose même d'autres questions, auxquelles va répondre d'ailleurs saint Augustin dans la Cité de Dieu, parce qu'il élude aucun problème, Augustin, face aux païens. Et dans la Cité de Dieu, il prend même le cas d'un type qui a été mangé par un poisson. Et alors, un type a mangé le poisson où a été insérée la chair du type. Donc, vous voyez, c'est quasiment un cannibale. Donc, à la résurrection, vous voyez, la chair de l'autre est devenue aussi la chair de l'un. Et alors, comment est-ce qu'on fait, puisque toutes ces chairs sont mêlées? Bon, donc, ça paraît complètement aberrant. Mais il va de soi la résurrection ne consiste pas, dans la vision chrétienne, à récupérer des débris, à les fouiller simplement dans les tombes. Et bien sûr qu'il y a des images, les tombeaux s'ouvriront, les débris, les ossements desséchés vont reprendre vie, comme dans la prophétie d'Ézéchiel. Mais en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme qui est dans la vision béatifique, après le jugement, il lui est donné, d'une certaine façon, de rappeler son corps. Or, l'âme est la forme du corps. Donc c'est l'âme elle-même qui va, à partir de la matière, reconstituer son corps à partir d'elle. Et c'est pas comme si... Et cette idée qu'il faudrait recomposer à partir des débris du corps, c'est absurde, parce que c'est oublier que l'âme est elle-même la forme du corps. Et donc elle va elle-même reformer son corps à partir de la puissance de la gloire. Mais juste une petite précision quand même, les morts, tous les morts ressuscitent. Et certains ressuscitent en gloire, avec un corps glorieux, et certains ressuscitent pour la damnation, avec un corps lourd, opaque, etc. Donc il ne faut pas oublier que l'enjeu n'est pas simplement la résurrection, qui peut, et Porphyre a raison, qui peut devenir le lieu de quelque chose de terrible, de mauvais. Vous voyez, ça c'est la résurrection des damnés, ça, c'est la doctrine chrétienne. C'est une possibilité. Mais de l'autre côté, il y a cette possibilité de résurrection en gloire avec un corps qui a changé de condition, mais qui n'a pas changé de nature, et qui va, d'une certaine façon, pouvoir poser des actes. Voilà, il n'est plus soumis à la corruption, il n'est plus soumis aux nécessités du boire et du manger, mais il pourra peut-être encore boire et manger, comme disait saint Augustin, non plus par nécessité, mais par félicité. Un corps sensible, un corps dont la sensibilité sera une sensibilité poétique et vouée à la gloire.
Porphyre refuse la résurrection des corps au nom de l'immortalité de l'âme. À l'inverse, Calvin refusait l'immortalité de l'âme au nom de la résurrection des corps. Est-ce que ces deux doctrines sont incompatibles l'une avec l'autre?
Alors effectivement, le protestantisme, notamment avec Calvin, va dire, ben voilà, les païens, c'est l'immortalité de l'âme, nous, c'est la résurrection des corps, nous chrétiens. Dès lors, il n'y a pas à défendre l'immortalité de l'âme, il faut même s'y opposer, parce que c'est une confusion. Et d'autre part, on ne va pas prier pour les défunts, enfin, et on ne va pas prier les défunts eux-mêmes. C'est-à-dire, il n'y a pas de prière aux saints, parce que l'idée de Calvin, c'est que d'une certaine façon, les morts sont morts, ou éventuellement, leurs âmes sont dans un grand dortoir, en attendant le jugement dernier, la résurrection des corps. Parce que la personne humaine, c'est une, son âme et son corps. Alors, le catholicisme a une autre vision. Le catholicisme, assume davantage la raison païenne. Et la seule manière d'être païen aujourd'hui, encore, c'est d'être catholique. Alors, vous êtes un païen transformé, etc. Mais au moins, vous assumez les données de la philosophie. Vous n'avez pas peur d'assumer Platon, vous n'avez pas peur d'assumer Aristote, plutôt que de les rejeter au nom d'une théologie tellement biblique qu'elle en oublie, qu'elle emploie des concepts philosophiques parfois. Donc voilà. Donc la question, c'est quand on fait ça, après, on est souvent soumis à la philosophie de son temps et on oublie de faire de la bonne philosophie quand on fait de la théologie. Donc, là, ce qui se passe, c'est que dans la vision catholique, oui, il y a l'immortalité de l'âme. Et l'âme séparée peut encore subsister, mais elle ne peut plus vraiment poser d'actes par elle-même. Il faut que Dieu lui donne une lumière particulière, qu'il va lui donner au moment du jugement particulier, au moment où l'âme se sépare du corps, il y a un jugement particulier, et cette âme va être dans la vision béatifique. Et donc, les âmes des bienheureux sont encore des âmes vivantes et même des âmes qui peuvent intercéder pour nous, ce qui n'est pas le cas dans le protestantisme. Donc on assume cette idée de l'immortalité de l'âme qui est proposée par le paganisme et par le logos des païens, qui est un vrai logos. Mais d'un autre côté, on dira que la personne humaine, c'est l'âme et le corps. Et d'ailleurs, Thomas d'Aquin dira « les âmes séparées, même celles des bienheureux, sont imparfaitement des personnes. Et elles attendent, malgré tout, pour être dans la perfection subjective de leur béatitude. Du point de vue objectif, elles ont une béatitude parfaite, parce que c'est Dieu l'objet de leur béatitude, c'est quelque chose qui les dépasse. Mais du point de vue subjectif, eh bien, il leur manque encore quelque chose. Vous voyez, on voit que le christianisme ne va pas rejeter l'héritage païen, va assumer d'une certaine façon Plotin et Porphyre, mais va les dépasser dans une affirmation radicale que la personne, c'est pas son âme seulement, c'est son âme et son corps, c'est son esprit et sa chair, et c'est pour ça que ça n'est en aucun cas un spiritualisme, et c'est même le lieu de la résistance, même aux nouvelles formes de désincarnation qu'on a avec le règne du virtuel.
Fabrice Hadjadj, nous arrivons au terme de l'émission. Un dernier mot pour la fin ?
Bien sûr que cette question-là nous situe dans un problème qui n'est pas seulement celui de l'immortalité, de la résurrection, mais j'imagine nos auditeurs nous disent bon, alors quand on est un corps glorieux, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la seule chose que je voudrais dire un peu pour conclure, c'est que le corps, tant qu'on est dans ce monde, c'est un corps où on fait des expériences sensibles pour nous élever vers Dieu qui est esprit. Mais une fois qu'on est en Dieu et qu'on revient dans un corps, c'est plus pareil. Le corps n'est plus là simplement pour nous donner des connaissances, pour qu'on aille vers Dieu. On est en Dieu et on redescend vers la matière. Or, cette manière d'aller de l'intelligible vers le sensible, et non plus du sensible vers l'intelligible, c'est l'ordre poétique. Qu'est-ce qui se passe chez le poète ? Eh bien, il a une idée, ou chez le sculpteur, ou chez le peintre, il a une idée, et après, il doit la faire advenir dans la matière. Or, c'est ça, la vie des corps glorieux, qui est une vie intégralement poétique. On est en Dieu, on a toute connaissance de Dieu, mais voilà que sous les cieux nouveaux, et sur la terre nouvelle, ces corps glorieux vont être des corps inventifs, qui vont reprendre cette matière, inventer peut-être des nouveaux animaux, des nouvelles plantes, rappeler toute cette matière dans une sorte d'écologie inouïe, éblouissante, resplendissante, où chacun va être le poète de la création nouvelle.
Merci Fabrice. C'était 26 minutes pour penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos, avec Porphyre de Tyr, Fabrice Hadjadj, Galdric Drapé, Sifrène Michel à la lecture et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30 et les dimanches à 20h30, et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. À très bientôt.